Bonjour et bienvenue à Escale 17-18 avec Fulgence Blas au micro. Maurice Bolduc est de retour. Il est là mercredi, jeudi, vendredi avec moi. Et en première partie. Oui, Maurice Bolduc, bien sûr, la technique, là, je ne l'ai pas précisé. J'ai dit son nom sans doute, on va dire où il se trouve. Et en première des parties d'émission, tout comme tous les mercredis, notre chroniqueur de plein air et de loisirs, Stéphane Baudry, qui est avec moi en studio. Et en deuxième partie d'émission, je vais recevoir Chantal Ringuette, qui va nous parler de Alice Ruby, qui a été formidable, un nouveau regard sur une figure d'avant-garde aux éditions Québec-Amérique. On va tout de suite en musique. Voilà, avec The West Control Apologize Reggae Mix.
Constantly, I try to control it. Even when I know it's been forever, I can still feel the spin. It's when I remember, and I never wanna feel it again. Don't know if you get it, 'cause I can't express how thankful I am. That you were always with me when it hurts. I know that you don't understand.
It's life facts.
Thank you.
Oui, c'était Sly for Ricks qui a mixé d'ailleurs le Control et Apologize de The West. Alors, comme je disais, quand je plantais le décor de l'émission, je l'ai dit, mon chroniqueur de plein air et des loisirs, Stéphane Beauté, avec moi en studio ici. Je suis toujours content de le voir chaque mercredi ici. Bonjour Stéphane.
Bonjour Fulgence.
Comment vas-tu?
Ça va très bien, merci. Et toi?
Ah oui, je suis très, très, très. Je vais bien malgré le froid de canard, le temps de canard. Bon, ben, il fait froid. Alors, Stéphane nous a choisi aujourd'hui les territoires des Amériques. Ah, ouh, tu auras beaucoup à dire, hein.
Oui.
Parce que c'est très vaste, hein.
C'est très vaste.
Non, tu n'as même pas dit le territoire, mais le territoire au pluriel des Amériques.
Oui.
Et qu'est-ce qui a fait que tu nous as choisi aujourd'hui ces territoires des Amériques?
Mais c'est que depuis une soixantaine d'années, oui, l'artiste multidisciplinaire René Drouin,
oui,
poursuit son œuvre unique où les notions d'identité et de territoire s'inscrivent dans une perspective globale des Amériques.
Oui.
Ça veut dire que lui se voit comme Américain.
Oui.
Et il est à la recherche de cette identité-là. Il a beaucoup voyagé, il a vécu à l'étranger, il est allé au Mexique, au Japon, il a vécu vraiment dans des...
Oui, mais le Japon, c'est pas les Amériques. Oui, il a beaucoup voyagé.
Mais pour avoir une identité américaine, je pense qu'il faut voir au-delà de l'Amérique,
justement,
où est-ce qu'on se situe dans tout ça.
OK.
Il disait qu'il était dans un espace vraiment très petit. Et
ah bon?
c'est pas la même perspective qu'ici, alors qu'ici, on aime les grands espaces.
Voilà, c'est ça. Oui,
c'est ça. Mm-hmm. Alors, c'est un peu ça. On parle de quelqu'un, c'est multidisciplinaire parce qu'il fait de la gravure, du dessin, de la sculpture et des installations.
Ça veut dire des genres. Je suis allé faire ma petite recherche de lui. Il faut savoir qui est cet artiste multidisciplinaire-là.
Mais le film, c'est un film immersif. Ça veut dire qu'on se sent vraiment dans le film.
Oui.
Ça revisite les lieux clés et le cheminement de l'artiste à travers ses voyages et sa quête identitaire.
Mm-hmm.
C'est un film de 45 minutes. Alors, ça va très bien. Ça se prend très bien, où la technologie s'allie avec l'art afin de nous faire découvrir cet artiste-là.
Oui.
Moi, je dois avouer, je ne le connaissais pas. J'en avais entendu parler de gens autour de moi, mais de voir qu'il explique lui-même c'est quoi son cheminement au créatif, et pourquoi il fait certaines choses, pourquoi il a posé certains gestes, c'est vraiment magnifique.
Dans une de ses entrevues, j'ai écouté quelques-unes de ses entrevues d'ailleurs, quand j'ai reçu ton document, dans une de ces entrevues, je l'ai entendu dire, quand j'étais adolescent, quand on me demandait d'où tu venais, effectivement qu'elle était au Japon, mais quelque part, il dit « je viens du Nord ».
Ouais.
Il ne pouvait pas dire « je viens du Canada » ou bien quelque chose comme ça, ou bien du Québec, mais « je viens du Nord ».
Ouais.
Donc il a commencé à expliquer aux gens qui lui posaient la question, c'est là où sont les ours, on vit dans les autochtones, il fait toujours froid, voilà. Il avait un problème d'identité aussi, comme tu le dis,
ouais,
et c'est ce qui fait qu'il a voyagé beaucoup pour savoir au fait qui il est lui-même.
Mm-hmm.
Voilà.
Exactement.
Il ne se définissait pas comme quelqu'un qui appartenait à une région particulière.
Exactement.
Mm-hmm.
C'est ça. Et c'est Patrick Bossé qui est scénariste et le réalisateur du film. Mm. Il est aussi coproducteur avec Pascal Pelletier, qui est cofondateur, président de Hublot et propriétaire aussi de production Figure 55.
Oui.
C'est deux hommes qui ont beaucoup, beaucoup travaillé justement avec l'immersif, avec l'alliage de technologie avec le film. Mm. Et c'est pour ça que c'est très, très bien réalisé à ce niveau-là.
Mm.
Ça se trouve à être à la Société des arts technologiques.
À la SAT.
À la SAT, oui.
Oui.
Au 1201 boulevard Saint-Laurent.
Saint-Laurent, non, c'est collé à CIBL, à la radio CIBL, en face de, disons, du monument national.
Mm-hmm.
Voilà, quelque part, juste à côté, là.
Alors, c'est, on parle en voiture, c'est juste au sud de Sainte-Catherine, ça se fait très bien. Mm-hmm. Et en transport en commun, on a la station Saint-Laurent de métro, qui est vraiment pas loin. Alors, ça se fait très bien, c'est pas tellement loin en plus de... Même, je dirais, du palais des congrès et tout. Alors, ça se fait très, très bien.
C'est en plein centre-ville.
Oui, c'est ça, exactement.
Ouais. C'est en plein centre-ville.
Et c'est vraiment spécial parce que les spectateurs, on est couchés sur des fauteuils. C'est vraiment...
Attention.
Et on est en dessous d'un dôme.
Il n'y a pas de siège.
C'est des fauteuils.
C'est des fauteuils.
On s'écrase dedans.
Oui.
Et on est comme... on n'est pas parfaitement à l'horizontale, mais disons qu'on est vraiment très confortable. Et on est sous un dôme, et le dôme, c'est l'écran. Et le dôme est 360 degrés autour de nous.
Comme ça?
Oui. Alors, si on regarde en haut, on voit le ciel dans le film.
OK.
Et si on regarde en avant, on voit certaines choses. Des fois, on est comme en plein milieu d'une ville. Et il y a des objets qui, pendant toute la projection, il y a des objets qui passent.
Attends,
à côté
moi,
de
ça
nous.
Va jusqu'à quand? Dis-moi, je vais voir la date. Il faut que j'aille voir ça.
C'est jusqu'au 4 décembre.
Jusqu'au 4 décembre. Oui.
Okay, 4 décembre 2021.
OK. Donc, c'est tous les soirs?
C'est du mardi au samedi.
Du mardi au samedi, oui. Voilà. C'est génial.
Les séances sont à 17h, 18h30 et 20h.
OK.
Oui. Mm-hmm. Et le film va être également présenté du 19 janvier au 9 février 2022 au Musée d'art de Rouyn-Noranda.
Ah.
Oui.
OK.
Et ça se promène un petit peu comme film.
Oui.
Et c'est vraiment là, les effets, comme, avec les effets de perspective, même si on n'a pas des lunettes 3D ou quoi que ce soit,
Est-ce qu'ils en fournissent?
Non, il n'y en a pas. C'est seulement avec le principe du dôme et la façon que les perspectives sont faites sur le dôme,
oui,
on a vraiment l'impression que les objets, les formes, il y a même des formes de ces gravures qui passent autour de nous.
Ah, ouais.
Et on est dans le film.
Quel régal pour les yeux.
Et c'est beau, je veux dire, ce qu'il fait.
Quel régal pour les yeux. Oui.
L'artiste fait la narration du début à la fin du film. Il explique son parcours très simple, très intimiste. Il parle avec, je dirais, avec une simplicité désarmante de tragédie qu'il a vécue très jeune.
Mmh.
Pourquoi est-ce qu'il a quitté Montréal? Pourquoi sa famille a quitté Montréal? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Les tragédies qui ont amené à ça. Et après ça, ben c'est ça. Qu'est-ce qu'il a vécu au Mexique? Qu'est-ce qu'il a vécu au Japon? Qu'est-ce que ça a eu comme effet sur lui? Et tout ça, avec plein d'animations, plein de vidéos, plein de... Le voir travailler aussi sur ses gravures avec sa conjointe, c'est vraiment très, très
beau. Oui, j'ai vu quelques-unes de ses tableaux, quelques-unes de ses peintures, bien sûr.
Puis on parle, il est apprécié sur plusieurs continents. Il a obtenu une large diffusion au Québec, au Canada ainsi qu'à l'étranger, plus spécifiquement au Mexique, parce qu'il a fait quand même une grande installation là, avec 20 000 figurines.
20 000 figurines?
Oui, faites une par une.
Ah oui, il n'a pas fait en même temps.
Non, c'est quelque chose. Ça a été exposé à Québec aussi. Il y a eu les plus grands honneurs du gouvernement mexicain. Ses œuvres ont été exposées en France, aux États-Unis, au Venezuela, en Australie, au Japon.
Mm-hmm.
C'est vraiment très, très bien. On parle, c'est quoi? C'est avec les taxes, c'est 29 et 25 par personne.
Oh, disons 30 $.
C'est ça. Mm-hmm. Puis on peut acheter les billets en ligne. C'est SAT.
29, 25, c'est les taxes incluses.
Oui, c'est les taxes incluses, oui. Mm-hmm. C'est sat.qc.ca/fr/ Territoire au pluriel, comme tu le disais,
oui,
des Amériques avec des traits d'union entre les mots. Mm-hmm. Territoire, traits d'union, des traits d'union, Amérique.
Ouais.
Il faut noter que le passeport vaccinal est exigé à l'entrée.
Ça a devenu standard maintenant. Ouais. On ne peut pas s'en passer, quoi.
Oui, puis on garde le masque tout le long de la séance. Mais c'est 45 minutes.
45 minutes, ça va. On ne va pas s'étouffer en 45 minutes parce qu'on porte un masque, quelque chose comme ça.
Non, c'est ça.
Oui, oui. Et pour conclure.
Mais c'est une merveilleuse occasion de découvrir un artiste très prolifique de chez nous et qui est reconnu internationalement. C'est bien, c'est vraiment quelque
Alors,
chose
faut
à
pas,
découvrir.
Il ne faut pas qu'il t'entende. Hein? Il va dire, je suis de partout. Hein?
Oui, exactement. Mais il est de chez nous parce que nous sommes en Amérique.
Voilà, il m'a dit, je suis de partout. Hein?
Et je trouve que son parcours nous fait prendre aussi conscience des richesses des cultures qui sont autour de nous.
Oui.
Et à quel point, justement, on ne peut pas tout le temps rester juste dans notre petite région, dans notre petit coin, mais il faut au contraire s'ouvrir à ce qui se passe autour de nous et avoir, une identité plus large que notre petit patelin.
C'est tout.
Ouais.
Merci, Stéphane.
Merci.
Et à la semaine prochaine.
Ouais,
merci prochaine. À toi.
Merci. Bien. Ouais. Aroma, présente pour yole. Be to see you. You give me love and I feel it. You give me love and I feel it. Give me my boy, I want it. Give me my yole, yole, yole. Yola. Yola. If loving you is wrong, and I don't want to be right.
Avec la complicité de Aroma Yola, Y-O-O-L-A, c'est bien ça. Avant de passer à la prochaine pièce musicale pour terminer cette première partie de l'émission, je vais parler un peu des équipes qui se sont qualifiées pour le football, pour le soccer et pour la Coupe du Monde 2022. Il y a quelques équipes qui se sont, quelques pays, nations qui se sont qualifiées déjà. Il y a le Qatar, pays qui est qualifié d'office. Voilà, le Qatar n'a pas besoin de jouer les matchs éliminatoires, tout ça, non, le pays qui organise, c'est le pays hôte, c'est le pays qui est qualifié d'office. Bon, il y a l'Allemagne, il y a le Danemark, il y a le Brésil, il y a la France, la Croatie, il y a la Belgique, il y a la Serbie et l'Espagne. Et du côté de l'Afrique, ils auront plein de matchs de barrage pour se départir avant de qu'on ne voit le nom de certains pays africains ici. J'espère qu'ils vont au moins être, avoir au moins l'Afrique, va avoir au moins quelques équipes qui va représenter ce continent de 54 pays. Donc, vous savez, il y a 32 pays, hein, sur les 32 pays nationaux, les 32 équipes nationales qui vont disputer cette Coupe du Monde. Ça veut dire qu'après tous les éliminatoires, les coups, les matchs de barrage, tout ça, il y a 32 seulement qui vont se retrouver au Qatar. Voilà, pas plus. Voilà. Donc, je pense bien que le Canada, j'aimerais bien voir d'ici peu le nom du Canada dans cette liste-là. C'est mon souhait le plus noble. En tout cas, voilà, je peux pas dire plus que ça, le nom du Canada. Ah tiens, et puis bon, je reviens là-dessus parce que j'ai oublié d'en parler hier. Ils ont gagné le match qui s'est déroulé dernièrement à Edmonton contre le Mexique 2-1. Il y avait de la neige. Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi Edmonton là, parce qu'ils savaient qu'il allait faire froid, il y avait de la neige là-bas. Le Mexique qui perd face au Canada 2-1. Alors, j'ai dit bravo aux jeunes, aux garçons. Mais c'est pas l'équipe du Canada qu'on connaissait il y a quelques années. Je ne sais pas, il y a combien qui jouent en Europe. Il y a des grands, grosses têtes là-dedans, là, qui sont dans des grandes équipes en France, en Allemagne et en Angleterre, en Belgique, donc c'est pas le Canada que ces équipes, que ces pays ont rencontré il y a quelques années, dit bon, ceux-là on va les écraser tout de suite, on va les effacer, mais non, le Canada a maintenant des stars, des connaisseurs du football, du soccer dans son rang, donc quand vous nous rencontrez là, faites très 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 attention, ce sont pas les joueurs de soccer d'avant là, c'est, voilà, les éliminatoires pour le Mondial au Qatar. Ouais, c'est au fur et à mesure, ça, les premières sélections obtenues, des billets pour la grande messe de football. L'Allemagne a été la première nation à se qualifier. C'était le 11 octobre. Ensuite, les autres ont suivi. Voilà. C'était un petit clin d'œil que je voulais faire au Qatar 2022. Et puis voilà, on va tout de suite en musique pour terminer cette première partie d'émission. Avec qui? Nate White et Groove Inside. Nate White et Groove Inside. Restez à l'écoute, après la petite pause publicitaire, on va recevoir l'auteur Chantal Ringuet, qui va nous parler d'Alice Robbie. Elle a été formidable, c'est le livre, hein, je l'ai ici, bon, c'est la raison pour laquelle elle a refait pour nous parler de ce livre sur la vie de Alice Robbie, ouais, une grande Québécoise qui nous a quittés il y a quelques années. Restez à l'écoute, on revient tout de suite.
Escale 17-18 avec Fulgence Blas.
À te regarder, on croirait bien que t'es empressé de partir. À te regarder, on semble croire que je ne suis plus qu'un souvenir. Me reste plus qu'à espérer qu'un jour peut-être tu reviendras. Me semble lire dans tes yeux que tu veux t'éloigner de moi. De nous deux sera vaincu, lequel de nous sera perdu. Je sens que c'est moi qui souffrirai, je sens que c'est moi qui pleurerai. Ne va pas croire que pour l'amour je risquerai toute ma vie. Ne va pas croire que je suis celle qui t'attendra toute une vie. Car j'ai peur d'être condamnée comme l'oiseau qui ne peut plus voler. Je ne veux pas me retrouver seule comme une veuve traînant. D'écouter, on semble croire que tu te cherches autant que moi. À t'écouter, je me demande si tu te souviendras de moi. Je voudrais tellement tout te donner sans avoir à le regretter. Je voudrais tellement m'abandonner, te sachant là à mes côtés. Mais je ne veux pas être de celles qui se nourrissent du passé. Car j'ai trop besoin d'être aimée pour que je m'arrête d'espérer. Toute une vie.
Alice Robé, quand tu partiras. Auteure primée, traductrice littéraire, Chantal Ringuet a publié de nombreux ouvrages d'ailleurs, de prose et de poésie. Elle a co-dirigé, j'ai dit bien, ouais, le collectif Les Révolutions de Leonard Cohen, qui a remporté en 2017 un Canadian Jewish Library Award. Et cette fois, elle voulait aussi écrire un roman où Alice Robé ne ferait qu'une apparition, mais voilà, pas un étrange revirement. Était-ce une mise en scène ou un dernier coup d'éclat ? Non, la focalisation a changé, la chanteuse s'est placée au centre, fidèle à ses habitudes, en somme. On l'a au téléphone, elle va nous parler de ce livre, pourquoi avoir choisi cette grande dame, cette grande chanteuse connue mondialement. Chantal Ringuet, bonjour.
Oui, bonjour.
Comment allez-vous ?
Je vais très bien, merci, et vous ?
Je vais bien, content de vous avoir et vous nous parler de ce... de cette dame qui me sourit ici parce que j'ai le livre en face de moi avec le sourire. Quelle belle photo de couverture. Hein. Alice Robé a été formidable. Un nouveau regard sur une figure d'avant-garde. Oui, c'est vrai, elle était avant-gardiste. Alors pourquoi elle ?
Pourquoi écrire sur elle ? D'abord, je dois dire que c'était une femme de ma famille.
Oui.
Qui avait un lien de proximité assez fort avec ma grand-mère dans leur dernière décennie, en fait.
Oui.
Et en réalité, moi, j'ai toujours entendu parler d'Alice Robé, mais je ne l'ai pas rencontrée, ce qui est un peu singulier. Mmh. En même temps, bon, moi, j'ai grandi à Québec et Alice Robé a été très occupée dans le monde et elle a passé ces dernières décennies à Montréal. Elle venait rarement à Québec.
Oui, c'est vrai, c'est une native de Québec. Hein?
Mmh. Oui, exactement. Mmh. Et pourquoi écrire un livre sur elle, en fait, c'était pas quelque chose que je prévoyais faire. C'est arrivé un peu par hasard au moment où on m'a remis donc une somme de photographies de famille après la mort de ma grand-mère. J'ai découvert des photos d'Alice Robé et de ma grand-mère, y compris une photo d'une couverture de magazine avec ma grand-mère et Alice Robé.
Ah.
Et oui, alors ça c'est intéressant, c'est un magazine donc des familles Robitaille, mais quand même...
Parfois, il y a de très belles photos là-dedans, dans ce livre-là. À la fin, là-bas, il y a de très belles photos de souvenirs. Ouais. Vous avez fait de très beaux choix de photos.
Merci. Oui, on a longuement réfléchi aux photos qu'on allait inclure. Alors, en fait, c'était la découverte de ces photos et ce lien qui était finalement assez proche malgré le temps, en fait, parce qu'on sait qu'Alice Robé a eu une grande carrière internationale durant sa jeunesse. Tout ça, c'est pas durant sa jeunesse qu'elle était proche de ma grand-mère, mais à la fin. Et donc, j'ai voulu, en fait, ça m'est resté cette question sur cette chanteuse qui avait été la chanteuse de la guerre. Et
oui.
j'ai voulu en fait faire un travail d'enquête sur qui elle était, qui était cette jeune Québécoise, cette grande chanteuse qui avait été aussi l'une des premières femmes importantes dans le domaine de la radio. Alors que la radio était le principal instrument de communication avec le grand public.
Et puis, même pas chez nous au Québec, elle faisait de la radio en anglais à Toronto.
Oui,
en plus.
À Toronto. Oui. Et elle avait une émission Latin American Serenade qui était une émission destinée à faire découvrir aux Canadiens le répertoire latino-américain.
Oui.
Et ça, ce sont des choses assez fabuleuses, en fait. Je ne savais pas ça, par exemple, que c'était vers 1940-41 qu'elle avait animé cette émission de radio à Toronto en anglais.
Mmh.
Et donc, l'importance du personnage s'est peu à peu révélée à moi quand j'ai commencé à faire des recherches sur qui elle avait été. Comme en fait, moi, ça m'intéressait surtout de retrouver des traces de cette jeune chanteuse qui s'était vraiment illustrée un peu partout dans le monde, qui est devenue, comme on l'a dit souvent après la première Star internationale du Québec. Bon, cette dénomination, il faut le rappeler, est issue du Star System américain. Donc, en ce sens, on veut dire que Alice Robé s'inscrivait dans la tradition des enfants artistes comme Shirley Temple aux États-Unis.
Oui.
Et elle a fréquenté les grands musiciens qui ont eu un parcours surtout aux États-Unis, au Canada, comme les jazzmen, par exemple, Dizzy Gillespie, Sammy Davis, Arthur Peterson,
Nat King Cole.
Oui, exactement. Et puis également Frank Sinatra, etc. Alors, c'est vraiment fascinant quand on prend un peu de distance face à la fois à ce qu'on a entendu dans sa propre famille et à l'image que nous a laissé, par exemple, la télévision dans ces dernières décennies.
Oui.
C'est quelque chose qui était très différent. Alors, c'était, voilà, pour répondre à votre question, c'est ça qui m'a donné envie d'écrire un livre sur elle.
Oui, vous n'avez pas eu peur parce qu'il y a déjà eu des livres sur elle, hein?
Oui, ben, évidemment, il y a eu des livres sur elle, il y a eu une autobiographie, il y a eu une biographie, oui, etc. Et c'est là où j'ai commencé à les lire. Et oui, moi, je restais à la fois, comment dire, très insatisfaite et perplexe.
Ah, vous êtes restée sur votre faim.
Oui, parce que, mais pour une simple raison, pas pour reprocher des choses aux auteurs qui avaient travaillé sur elle, mais parce que on entendait toujours ce discours. Enfin, vous savez, c'est un mythe maintenant, presque Alice Robbie, enfin, ça fait partie vraiment, c'est tellement connu au Québec, on a toujours raconté son histoire de deux façons, c'est-à-dire en deux axes. L'histoire de l'ascension fulgurante de cette jeune chanteuse et ensuite son déclin. Et là, c'est la tragédie, etc. La période de son internement.
Oh, on va en parler d'ailleurs.
Je me suis demandé, alors pourquoi j'étais perplexe, à savoir, ben, comme chercheuse, je suis habituée de fouiller, de gratter un peu sous le vernis des discours, ou enfin de ce qu'on présente comme les discours officiels.
Oui.
Et alors, j'ai remarqué aussi qu'il n'y avait aucune recherche qui avait été faite dans ces documents d'archives. Et la raison est très simple, c'est que elle possédait tous ces documents, donc ça n'avait pas encore été fait. Alors, c'est quelque chose qui était...
Okay.
Oui, alors ces archives sont accessibles depuis qu'elles sont rendues au musée de l'Amérique francophone seulement.
Okay.
Alors, ça fait 10 ans, elles ne sont pas toutes accessibles, mais... Alors voilà, donc j'ai eu envie de... Je me suis dit, il y a certainement des choses à apprendre concernant l'histoire.
Et à nous révéler aussi, qui n'étaient pas révélées dans les autres livres qui ont déjà été écrits sur elle, oui.
Exact. Alors, c'est là où j'ai pensé que ce serait intéressant d'entreprendre ce travail, ce long travail de recherche et d'écriture.
Oui.
Et une autre chose importante qui m'a frappée, c'est qu'elle était souvent racontée, on la racontait souvent, c'était souvent des hommes qui l'ont racontée à travers le temps, que ce soit des critiques musicaux, que ce soit aussi, il y a des médecins qui ont parlé d'elle, des animateurs, son biographe.
Donc, ça veut dire que quoi? Vous êtes la première femme qui écrit quelque chose sur elle?
C'est-à-dire qu'il y a eu déjà quelques articles de presse, mais un livre? Un ouvrage substantiel, oui.
Vous êtes la première. Chantal, on va faire une petite pause musicale, une autre pièce de Alice Robbie. Cette fois-ci avec un de ses tubes, moi je peux l'appeler le tube, le Tico Tico.
Je pars une heure bien qu'aux petites heures du matin. Quand je suis à temps, coucou, mais autrement, parce qu'il est gentil et charmant, mon petit coucou. C'est un oiseau qui jamais ne se laisse prendre. Il connaît tous les rendez-vous, comment s'y rendre. Et dans les affaires d'amour, mon tico est là toujours, qui me dit peu importe la nuit ou le jour. Oh, j'entends mon petit tico qui m'appelle. Il semble dire que c'est l'heure d'être fidèle. Oh, 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 on dirait que mon cœur fait croc. Tico, 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 tac. We'll be right back. en tic-o-tic, en tac, ça tic-o-tic, en même en cœur tout en micmac. Et lorsqu'il dit coucou, il veut dire aimez-vous, les amoureux se fient sur lui dans mon patelin. Et quand il crie 8 heures, tout chavirant mon cœur, je pars une heure bien qu'aux petites heures du matin. Quand je suis à temps, coucou, mais autrement, ouhou, parce qu'il est gentil et charmant, mon petit coucou. C'est un oiseau qui jamais ne se laisse prendre, il connaît tous les rendez-vous, comment s'y rendre. Et dans les affaires d'amour, mon petit coucou est là toujours, il me dit peu importe la nuit ou le jour. En gros, j'entends mon petit coucou qui m'appelle, il semble-t-il que c'est l'heure d'être fidèle. Oh, 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 on dirait que mon cœur fait croc. Tico, 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 tac.
Alice Robbie au ticoticoti, au ticoticota. Notre invité, l'auteur Chantal Inguet, est toujours avec nous. Merci vraiment. Bah non, ce livre, c'est un régal pour moi. Je sais, et puis merci aussi de me faire découvrir cette grande dame. Voilà, quand je commence à le parcourir, je me suis dit, mais moi, il y a une personne à qui j'en veux, c'est Egas Moniz, celui qui a créé la lobotomie.
Ah.
Ce portugais. Je lui en veux. Oui. Mm-hmm. Parce que c'est lui qui a créé ça. Et puis bon, ben, et pour ceux qui ne savent pas, c'est une chirurgie qui consiste à effectuer une lobotomie, c'est-à-dire un acte chirurgical sur le cerveau, hein. Précisément, l'opération consiste à retirer une petite partie du lobe frontal afin de séparer le cortex préfrontal du cerveau, à couper une partie du cerveau. Pour les gens qui sont en dépression, les scientifiques d'avant, les chirurgiens ont pensé que ça pouvait aider, ça pouvait les guérir. Voilà. C'est ça.
Mm-hmm.
Et puis, en plus, ce qui m'énerve encore, c'est qu'il a eu même, il a été récompensé du prix Nobel avec ça, avec cette. Il a vécu de 1874 à 1955. Lui, je lui en veux. Voilà.
Mm-hmm.
Voilà.
Oui,
parce que ça n'a pas fait, ça n'a pas fait évoluer la science non plus. Hein. Non.
Non, et ça a brisé beaucoup de vies.
Oui, parce que là, je parle de ça parce que à 28 ans, elle a sombré dans la dépression. Et un an plus tard, à 29 ans, elle a subi cette lobotomie dont je viens de parler, ablation d'une partie du cerveau. Alors, ça, par exemple, on l'a traitée de folle, voilà, en psychiatrie. Mm-hmm. Elle a été avec l'accord de ses parents, la complicité de ses parents en plus.
Mm-hmm.
Parlez-moi un peu de ça.
Oui, oui, bien sûr. D'abord, merci beaucoup pour vos commentaires concernant l'ouvrage. Je suis très touchée. Je suis ravie que l'ouvrage fasse son chemin et qu'il rejoigne différents lecteurs. C'est
oui.
toujours très, très important de savoir.
Je le recommande. Pour ceux qui ne l'ont pas encore, voilà. Oui.
Et parce qu'à travers Alice Robbie, c'est aussi le portrait d'une époque, hein, c'est-à-dire non seulement l'univers du théâtre et du music-hall au Québec, mais aussi portrait d'une époque qui a été celle de la Seconde Guerre mondiale.
Oui.
Et où, durant cette période, donc on a eu, en effet, il y a eu des excès qui ont été faits dans le domaine de la médecine, entre autres. Et comme vous l'avez mentionné, donc sur le plan de la psychiatrie, la lobotomie est devenue une pratique assez courante.
Oui.
Elle a été popularisée aux États-Unis par, en fait, un médecin qui s'appelait Walter Jackson Freeman.
Mmh.
Et avec son acolyte James Watt. Et donc, on a énormément vanté les supposés mérites de cette opération qui
oui.
permettrait de guérir des patients très, très rapidement.
Mmh.
Et en fait, aux États-Unis, de 1940 à 1944, pour vous donner une petite idée, il y a eu près de 700 patients qui ont subi cette opération. Mmh. C'est énorme.
C'est horrible, il faut le dire.
C'est tout à fait horrible parce que, en fait, c'est une méthode tout à fait barbare qui
oui.
n'a jamais donné les résultats escomptés, c'est-à-dire mmh. que les gens en ressortaient la plupart du temps dans un état très mauvais. Perdaient leur capacité sur le plan physique et intellectuel très souvent.
Il y a d'autres qui n'arrivaient pas à sortir de là et qui perdaient la vie complètement, quoi. Mmh. L'opération, alors, oui.
Et il y a des gens qui mouraient carrément.
Oui, qui mouraient carrément.
Sur la table d'opération,
c'est
exact.
Ça.
Et donc, les femmes puisque c'est une époque aussi de répression. C'est avant, pour le Québec, c'est avant la Révolution tranquille. Bien sûr, c'est la période qu'on appelle la période dite de la Grande Noirceur, où on disait aussi que les femmes étaient plus fragiles émotivement et qu'il fallait donc les guérir. On les envoyait très souvent dans des institutions psychiatriques. Alors que ce qui est intéressant de constater, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même fait beaucoup de progrès parce que on a mis en place tout un réseau. Bon, le système de santé maintenant offre plusieurs possibilités. Mais à l'époque donc de la Seconde Guerre mondiale, Alice Roby, c'est exactement ce qui lui est arrivé, c'est-à-dire une période où elle travaillait trop, elle était très fatiguée, ensuite un accident de voiture, un enchaînement d'événements jusqu'au décès de son petit frère, donc l'ont propulsé dans un état de fragilité important. Une période aussi où elle était seule, hein. Donc ça faisait des années qu'elle menait une carrière brillante, où elle était très flamboyante, où elle avait visité une trentaine de pays.
C'était une grande séductrice.
Oui, et elle avait beaucoup d'amants, beaucoup d'amoureux, elle ne voulait pas se marier.
Non.
Donc en fait, son exemple était... elle était une rebelle en ce sens-là, si vous voulez, et un mauvais exemple pour les femmes de sa génération. Mmh. Ce qui fait que, finalement, elle s'est retrouvée à Saint-Michel-Archange, donc l'hôpital psychiatrique situé à Beauport, dans la région de Québec.
Oui.
Et on savait très bien qui elle était à l'époque.
Oui.
Et à cette période, donc, on l'a gardée là pendant une période de 4 ans. Ce qui est extrêmement long.
Oh, c'est long, c'est long.
Pour une femme qui avait toujours géré sa carrière avec une main de maître, c'est-à-dire qu'elle était aussi indépendante économiquement. Et elle ne buvait pas, ce qui est intéressant, parce que, elle avait énormément d'ambition. C'est son père qui l'avait introduite au chant quand elle était toute petite, mais vraiment quand elle était enfant. Et malheureusement, donc, elle s'est retrouvée dans cette impasse qui était celle donc une difficulté émotive et psychique qui, a fait en sorte que ça a brisé sa carrière, sa carrière internationale, en fait.
Mm-hmm.
Mais ce qui est intéressant aussi par rapport à Alice Roby, et c'est là où je pense que son cas peut interpeller les jeunes générations,
oui.
Parce que comme femme artiste, elle a surmonté de très nombreux obstacles, et on retrouve énormément de résonance de tout ça dans l'actualité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle s'est toujours reconstruite, c'est-à-dire malgré ses années d'internement, malgré la lobotomie et...
Elle a toujours su rebondir.
Voilà, alors que son répertoire n'était plus à la mode après, elle s'est constamment recréée et elle a toujours suivi son désir de chanter. Et ça, c'est très beau,
je pense. Oui. À 13 ans, à l'âge de 13 ans, en 36 d'ailleurs, elle est engagée au Théâtre National. Mais c'est fou, hein, tout un parcours atypique. Je ne sais pas, mais très jeune, elle a quitté Québec pour Montréal à 12 ans.
Oui, c'est là où ça ressemble... C'est vraiment un parcours américain, Alice Roby, dans ce sens-là.
Oui.
Les jeunes ou les immigrants ou les gens issus de milieux très modestes qui peuvent se frayer un chemin dans le domaine du musical, du théâtre et même jusqu'à Hollywood. C'est vraiment typique de l'Amérique.
Ouais.
Et c'est très intéressant parce qu'elle dépassait toutes les frontières et elle était reconnue et aimée pour son répertoire, certes, mais aussi pour son ouverture sur le monde.
Oui. Merci. On est à la fin de l'entrevue comme ça. Chantal Ringuet, merci beaucoup pour ce bijou. Alice Roby a été formidable. Nouveau regard sur une figure d'avant-gardiste aux éditions Québec-Amérique. C'est déjà en librairie. Si vous n'avez pas encore votre copie, allez-y, vous procurez une copie. Vous allez découvrir ce que... Chantal Ringuet a mis dans ce livre pour ça se lit c'est pas une brique hein. Ça se lit facilement là c'est voilà
ça se lit comme un roman
voilà merci beaucoup et peut-être qu'on aura un tome 2, pourquoi pas, vous n'avez pas tout dit.
On verra,
je vous lance comme ça quoi, allez bonne soirée à vous.
Merci beaucoup,
merci,
au revoir.
je redis les instants d'autrefois. La joie de te revoir est bien mon seul espoir. Fallait-il donc t'en aller? Aurait-on jamais cru qu'un amour si parfait serait si tôt disparu? Mon amour, le temps qui passe continue à répéter que ce soir. Bésame, bésame mucho. Quand je te vois, je revis les instants d'autrefois. Bésame, bésame mucho. Viens, mon amour, et redis que ton cœur est à moi. La joie de te revoir est bien mon seul espoir. Fallait-il donc s'en aller? Aurait-on jamais cru que l'amour si parfait serait si tôt disparu? Mon amour, le temps qui passe continue à répéter que sans toi je ne suis rien.
Alice Roby, Bésame Mucho, on a la fin de l'émission comme ça. Merci à toi Maurice Bolduc, je dis merci aussi à notre chroniqueur de plein air et de loisirs, Stéphane Baudry, qui est venu parler des territoires des Amériques, et à Chantal Ringuet, qui est venu parler de son livre Alice Roby, qui a été formidable, un nouveau regard sur une figure d'avant-gardiste aux éditions Québec-Amérique. Allez, merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de votre fidélité, et on se retrouve demain à la même heure sur les ondes de Canal M. Je vous dis ciao.